entre les deux pays depuis le retrait unilatéral en 2018 par les États-Unis de l'accord international.
Merci beaucoup Cécile Merrion, on vous retrouve à 8h pour le prochain rappel des titres. Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, et Céline Béraud, sociologue, directrice d'études à l'EHESS. Elle publie une religion parmi d'autres, le catholicisme en prison et à l'hôpital.
Oui, le catholicisme domine toujours le paysage patrimonial, on le voit avec nos monuments, et sert encore de référence intellectuelle implicite de nos institutions, alors que le nombre de ses fidèles pratiquants s'est énormément réduit, malgré les catéchumènes, et que celui d'autres religions, comme l'islam, a beaucoup augmenté. Faudrait-il actualiser la réalité de ce que la France est devenue sous l'impulsion d'une logique diversitaire. Et comment rendre compte de certains sujets de fond dans ce climat de pluralité religieuse, comme la fin de vie par exemple. Et là, il se peut que les religions se retrouvent finalement sur un terrain commun. On va le voir. En tout cas, l'héritage catholique est fort et l'État s'y réfère même inconsciemment dans le cadre institutionnel, je le disais à l'instant, ce cadre qu'il pose en prison ou à l'hôpital. Plusieurs enquêtes ont été menées, Céline Béraud s'en inspire. Les personnes sans religion ou d'autres religions qui se trouvent par exemple en prison ou à l'hôpital ne se reconnaissent pas forcément dans le service qui leur est rendu. On va analyser les choses. C'est une source d'inégalité, même si Dieu ne sait compter que jusqu'à un, comme aimait à le dire André Frossard. L'Église ne peut se satisfaire de son effacement par le nombre et de ses déséquilibres. Il faut les penser, ces déséquilibres. Bonjour Céline Béraud.
Bonjour Louis Dauphren.
Sociologue et directrice d'études au CNRS. Autour de cette question, une religion parmi d'autres. Cela relativise le poids du catholicisme, mais en même temps, vous soulignez qu'il y a une rémanence. C'est un terme que vous utilisez.
Oui, ce que j'essaie de comprendre dans ce livre, c'est ce que la pluralisation religieuse, parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit, la société française est une société plurielle, et sa reconnaissance par l'État, puisque l'État a à gérer les cultes, malgré le régime de séparation de la loi 1905, et notamment dans les institutions publiques où il y a des aumôneries. C'est le cas à l'hôpital, prison et dans les armées. Et donc, il a accueilli des cultes qui n'étaient pas là au XIXe siècle, au moment où le régime des cultes reconnus a été instauré, notamment le culte musulman, le culte bouddhiste, le culte orthodoxe, et même
sauf dans l'Empire colonial, même si la loi de 1905 ne s'appliquait pas en Algérie.
Tout à fait, tout à fait. Et également les témoins de Jéhovah, qui ont des aumôneries depuis l'arrêt du Conseil d'État de 2013 en prison. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans ce livre, c'était d'essayer de comprendre ce que cette institutionnalisation fait au catholicisme, et de voir à la fois comment est-ce que progressivement le catholicisme devient une religion parmi d'autres, au même rang que les autres. Alors, il n'était pas monopolistique comme, par exemple, dans les prisons ou les hôpitaux italiens ou espagnols. Il était avec, aux côtés d'une présence juive et protestante, donc dès le 19e siècle. Mais là, il y a effectivement une situation de redistribution des cartes, c'est-à-dire des espaces, c'est-à-dire aussi en partie des postes, qui nécessitent effectivement, qui lui nécessitent de se repositionner et de se réinventer en partie.
Alors, je vais citer une personne que vous avez sélectionnée vous-même dans cet ouvrage. Je suis employé à 50%. L'aumônier catholique, lui, l'est à 70%. C'est un imam qui parle. Moi, je suis citoyen français, on doit me traiter comme tel. Franchement, je vous le dis, comme je le ressens, je l'ai dit à l'administration, l'aumônier catholique, il récupère 30% par le diocèse. Nous, on n'a pas de diocèse. Et puis souvent, les aumôniers catholiques, c'est des prêtres, ils sont célibataires. Nous, on a des familles. On fait des choses intéressantes, mais il n'y a pas de lieu de culte pour les musulmans. Les personnes âgées musulmanes ne veulent pas aller dans la salle de culte parce qu'il y a trop de symboles chrétiens. Voilà, c'est dommage. On dirait qu'ils ne veulent pas évoluer. Donc cette redistribution, Céline Béraud, elle n'a pas lieu tant que ça.
Alors là, vous citez l'exemple d'un aumônier musulman d'un hôpital parisien, où justement la redistribution à l'hôpital a été, sous une moindre pression de la pluralisation, a été moins forte qu'en prison. C'est-à-dire que ce que dit cet aumônier, je ne pense pas qu'on pourrait le dire en prison. Qu'est-ce qui se passe à l'hôpital? Il y a une inertie du passé, où effectivement la grande majorité des aumôniers étaient des aumôniers catholiques. Donc aujourd'hui encore, la majorité des aumôniers à l'hôpital sont des aumôniers catholiques. C'est eux et elles qui bénéficient des contrats de travail qui sont délivrés par les hôpitaux. Très modestes en général, hein, c'est des rémunérations extrêmement modestes, souvent à temps partiel, et donc se pose la question de comment faire une place, et faire une place durable, pour laquelle les personnes puissent vraiment s'engager, se former, etc., comme le réclame cet aumônier musulman. Et bien ça nécessite, dans un contexte de réduction budgétaire, effectivement, parfois de redistribuer les espaces. C'est pareil pour l'espace, justement, où il y a encore une présence dans certains lieux de chapelles, des chapelles qui sont consacrées et qui donc sont le lieu de l'aumônerie catholique, dans les hôpitaux qui ont fait l'objet de travaux récents, ou qui sont des établissements qui ont été construits dans les 30 dernières années, ou même un peu au-delà. Il y a des espaces qui sont prévus pour les différents cultes, donc des espaces qui doivent être partagés. Mais voilà, ce que dit cet aumônier musulman, et effectivement, sa capacité à s'engager est en partie entravée par cette inégalité qui est un héritage du passé, d'une certaine façon.
Vous estimez qu'il y a une discrimination ?
Alors, en tous les cas, là, on voit très bien qu'il y a une inégalité de fait. Il y a une inégalité de fait, puisque, effectivement, quand vous avez dans un hôpital deux aumôniers catholiques qui bénéficient d'un contrat de travail, et que l'aumônier musulman n'a pas de contrat de travail, parfois pas d'espace du tout, alors qu'il y a une chapelle catholique, parfois pas même de lieu pour poser ses affaires, oui, il y a une forme tout à fait, il y a une rupture d'égalité qui n'échappe ni aux aumôniers concernés, ni aux personnes qui le rencontrent.
Et alors, à un autre moment, d'ailleurs, vous racontez qu'il y a deux personnes qui se pointent à l'hôpital. Ce sont des musulmans, mais ils ne sont pas référencés, en quelque sorte. Alors, on ne sait pas, l'administration ne sait pas très bien. Ils se présentent comme aumôniers ou comme devant rendre un service aux personnes qui se trouvent à l'hôpital. Mais comme ils ne sont pas homologués, agréés, l'administration ne sait pas très bien quoi faire parce qu'elle ne sait pas qui sont ces gens.
Oui, alors il y a une tradition très forte dans l'islam de visite à la personne qui est malade, à la personne qui est mourante et aux proches endeuillés. Donc cette visite, elle est assez logique dans la tradition religieuse. Et effectivement, c'est un responsable des cultes d'un hôpital que j'interrogeais et qui me racontait cette anecdote. Lui aurait préféré avoir des aumôniers, parce que des aumôniers, ils sont recrutés par l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils sont salariés pour certains, ou alors liés par une convention de bénévolat, parfois avec l'établissement. Et donc, c'est des personnels qui sont choisis, qui sont aujourd'hui formés. Hein, il y a le fameux DU de formation civile et civique qui est obligatoire depuis 2017 pour les aumôniers qui reçoivent une rémunération. Et donc, ils sont beaucoup plus contrôlés. Et donc, l'administration préfère avoir des aumôniers que une présence de visite à l'hôpital. C'est beaucoup moins autour de la question de l'islam que la question de la crainte de visite de groupes dissectaires qui a beaucoup souvent effrayé certains responsables hospitaliers.
Alors Céline Béraud, suivez mon regard. On meurt beaucoup à l'hôpital aujourd'hui, hein, dans des proportions très importantes. Et la question de la fin de vie se pose, la question de la dernière volonté de la personne, si jamais la loi passe, de recourir éventuellement à ce droit qui a été créé tout récemment, de l'aide active à mourir. On verra ce qu'il en est lorsque le texte passera en vote solennel mardi prochain, mais dans l'hypothèse où ce texte passe, ce que l'on nous dit, c'est qu'en fait on aura le droit d'être informé, de faire tel ou tel choix. Et donc c'est l'administration, le corps médical, qui devra informer. Est-ce qu'on peut imaginer que le monde de l'aumônerie religieuse puisse jouer un rôle dans ces derniers instants, puisse influencer, représenter finalement une ossature importante et une forme de clé de discernement dans ce passage difficile qu'est la fin de la vie ?
Ce que je peux répondre, c'est que les aumôniers, quel que soit le culte, c'est vrai pour les catholiques, mais c'est vrai aussi pour les musulmans et pour les autres cultes représentés, jouent un rôle très important dans l'accompagnement de la fin de vie et dans la réalisation d'un certain nombre de rituels liés au décès. Ça, c'est vrai à l'hôpital, puisque c'est l'institution où on meurt majoritairement. On considère que c'est autour de 6 décès sur 10 qui ont lieu dans un hôpital. Mais c'est aussi le cas en prison. On oublie souvent que c'est la deuxième institution où on meurt, notamment du fait de la sursuicidité carcérale. Hein, un décès sur deux est lié à un suicide. C'est une question qui a été complètement éclipsée par la problématique de la radicalisation qui l'a fait oublier dans les années 2010, mais c'est aussi une réalité.
Y compris en maison d'arrêt.
y compris en maison d'arrêt, et souvent en maison d'arrêt parce que ces suicides ont souvent lieu dans les premiers mois de l'incarcération. Et donc, les premiers mois de l'incarcération, c'est ceux qui ont lieu en tant que prévenus dans une maison d'arrêt le plus souvent. Donc les aumôniers ont ce savoir-faire et ils sont volontiers sollicités par les personnels qui parfois les ignorent, parfois trouvent que... Enfin, les connaissent pas vraiment, c'est le cas à l'hôpital. Parfois, il y a une forme même encore de sentiment un peu anti-religieux qui peut s'exprimer à leur égard, plus à l'hôpital qu'en prison. Mais qui, en tous les cas, leur font volontiers une place autour de cet accompagnement de la fin de vie. C'est le cas en néonatalité, par exemple, mais c'est le cas aussi, bien sûr, dans les services de soins palliatifs. On l'a vu au moment de la crise du Covid, où alors les aumôniers n'ont pas partout eu accès à tous les hôpitaux et à tous les services, mais lorsqu'ils y avaient accès, il y a eu énormément de La presse confessionnelle, mais bien au-delà, hein, aussi, a salué cette présence importante des aumôniers, justement, dans ce moment où les taux de décès étaient particulièrement forts, au moment des attentats, des terrasses et du Bataclan, où il y avait eu les aumôniers, tout culte confondu, avaient aussi répondu présent, et là, avaient trouvé leur place dans cet espace. Donc oui, ils sont presque malgré eux, parfois un peu des spécialistes de la mort, parfois même, certains me disaient, on veut faire de nous des spécialistes de la crise suicidaire en prison, avec un aumônier national catholique qui le pointait, et qui résistait par rapport à ça. Hein. Mais là, effectivement, il y a vraiment ce qui est le en commun, dans les... Qu'est-ce que fait un aumônier? Qu'est-ce que fait homme ou femme catholique ou d'une autre confession présente, ça tourne beaucoup, effectivement, autour de cette question de la fin de vie et de la gestion du deuil.
Pourquoi ont-ils écrit un texte, ces aumôniers? Ils se sont constitués en plateforme, dites-vous?
Alors, ils ne sont pas constitués en plateforme, mais ils savent, les aumôniers nationaux, parce qu'il y a une structuration assez pyramidale, qui est d'ailleurs inspirée du modèle catholique. Hein, un des effets aussi de cet héritage catholique, c'est que l'État pense les autres cultes au prisme d'une organisation catholique, donc pyramidale, hiérarchique, descendante, exotique sur ce territoire, ce qui pose d'ailleurs tout un tas de problèmes aux religions qui n'ont pas ce type organisationnel, les bouddhistes par exemple, les musulmans bien sûr, et ça a été pas si facile pour les protestants au 19e siècle de s'y couler, mais au sommet, il y a une assez grande efficacité des aumôniers nationaux à prendre des prises de position communes. Alors, on a beaucoup vu autour de la prison, notamment, pour dénoncer les conditions de détention jugées indignes, dénoncer la surpopulation. On les a entendus se positionner il n'y a pas si longtemps pour dénoncer le caractère démagogique et populiste des propos de Gérard Darmanin sur les activités ludiques en prison, quand on connaît les conditions tout à fait indignes de détention dans les établissements français. Ils se sont aussi positionnés sur des questions plus religieuses pour demander des espaces polyculturels, pour dénoncer le fait de réduire l'aumônier à un outil de lutte contre la radicalisation. Donc là, il y a un savoir-faire politique de prise de parole et qui n'est pas réduit à une défense des intérêts religieux, mais qui est aussi l'idée que ils sont un peu, on les avait qualifiés dans la première recherche que j'avais faite sur la prison, de vigie de la détention. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de présence comme ça pour dénoncer des violences, pour dénoncer des conditions qu'ils jugent indignes.
Le fait qu'ils écoutent des prisonniers qui leur parlent, on peut supposer que ces prisonniers leur parlent, se confient. Est-ce que ça constitue, d'abord, est-ce que ce qui est dit est toujours sous le sceau de la confidentialité, ou est-ce que cela permet de ramener du témoignage et de l'exploiter?
Alors, pas du tout, parce que justement, la loi protège, les aumôniers sont protégés par la loi. Les aumôniers de prison, par exemple, c'est les seuls qui vont en cellule. Si vous êtes avocat, vous n'allez pas en cellule, vous allez au parloir avocat. Les médecins ne vont pas en cellule, on amène les détenus malades en unité de soins. Donc, ils circulent dans la détention, dans certains lieux, ils ont les clés des cellules ou clés des étages, donc ils voient ce qui s'y passe, ils en sont les témoins, et les interactions qu'ils ont avec les personnes détenues se font sous le sceau de la confidence. Ce qui fait que, par exemple, la correspondance se fait sous pli fermé, alors que, vous savez, la correspondance des détenus, elle est lue, leurs conversations téléphoniques sont écoutées, il y a deux types de correspondances qui se font sous le pli du secret, de la confidence, c'est avec l'avocat et avec l'aumônier. Et même les détenus qui sont au quartier disciplinaire, au quartier d'isolement, ils ont droit de recevoir l'aumônier, et lorsque le détenu est considéré comme dangereux et qu'il y a une présence d'un surveillant, il doit se tenir à distance pour ne pas entendre. Donc il y a une sorte de protection, et ça c'est vrai quel que soit le culte, bien sûr, qui explique que l'aumônier, eh ben, c'est une personne de confiance, effectivement, dans cet espace où il est très dur d'accorder sa confiance. C'est qu'il est sur une espèce de fil, comme ça, entre d'un côté les détenus et de l'autre côté, l'administration.
Mais vous dites, Céline Béraud, qu'en fait, un détenu, par exemple, prenons un musulman radicalisé, qui est en prison, il peut faire passer des infos via son imam.
Ah, il n'a pas le droit de faire passer des infos. Il a le droit de se confier. Les aumôniers...
Il faut que l'imam soit vraiment de confiance.
Mais bien sûr, c'est bien pour ça qu'ils sont sélectionnés. Il y a une enquête de renseignement, des renseignements qui est faite pour les aumôniers musulmans comme pour les aumôniers catholiques, comme pour les aumôniers témoins de Jéhovah. Et on peut même penser que la pluralisation, je le montre dans le livre, a renforcé le contrôle qui est exercé sur les aumôniers. Parce qu'il y a des aumôniers catholiques aussi qui sont sanctionnés parce qu'ils ont amené, ils ont fait sortir du courrier ou parce qu'ils ont fait circuler un objet d'une cellule à l'autre. Ça peut arriver. Leur agrément est dans ce cas-là suspendu, voire retiré. Il y a une sanction disciplinaire qui est effectuée. Donc les aumôniers sont au courant de ces règles-là. Ils sont, la pluralisation a renforcé ce contrôle en exigeant de la formation, en codifiant davantage leurs interventions. Effectivement, il y a un cadre qui est quand même qui protège l'État et ses institutions.
Sur cette question de la fin de vie, si on doit conclure là-dessus, Céline Béraud, est-ce que vous pensez que cette question qui va se poser donc à l'hôpital, je le disais, est-ce que ça va donner lieu ou ça donne déjà lieu dans ce monde des aumôniers qui se trouvent finalement en première ligne sur ce sujet,
ouais.
Est-ce que ça va donner lieu ou à une réflexion, une prise de position, à des choses qui vont être formalisées un peu publiquement ou pas?
Je ne sais pas. Ce qui est triste, ce qui est vraiment de certain, c'est qu'il y a un grand pragmatisme des aumôniers, hommes ou femmes. Les aumôniers catholiques accompagnent des IMG, des interruptions médicales de grossesse, désapprouvées par le magistère catholique, mais elles sont là aussi pour accompagner les familles, pour poser éventuellement un rituel lorsque les familles le demande. Les aumôneries sont très présentes dans les services de soins palliatifs et on sait que c'est aussi des zones de frontières. On sait que les choses ne sont pas aussi tranchées que ce qu'on pourrait penser sur le moment où la fin de vie advient. Donc il y a un grand pragmatisme, je pense, et aussi un savoir-faire. Et je pense que peut-être les cultes ont intérêt à s'inspirer de ce savoir-faire des aumôneries.
Et raison de plus, donc, pour lire cette enquête, une religion parmi d'autres, publiée au PUF, le catholicisme en prison à l'hôpital, signée de la sociologue Céline Béraud.
Merci beaucoup, Louis Dauphren.